L'UPM prend ses distances avec l'Union calédonienne et décide de poursuivre les discussions avec l'État. Le parti suspend également son secrétaire général Jean Crenier de ses fonctions à titre conservatoire. C'est Virginie Rufnacht, de retour de Paris, où elle a participé aux rencontres qui se sont déroulées du 4 au 9 septembre, qui était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. La chef du groupe Rassemblement au Congrès s'est notamment exprimée sur le projet d'accord du gouvernement. Y aura-t-il un nouveau blocage des vols Aircal Lifou? Selon le collectif qui avait donné demain 18 septembre comme date butoir à la compagnie, les discussions n'ont toujours pas abouti. La journée porte ouverte du Haut Commissariat dans le cadre du mois du patrimoine se poursuit aujourd'hui. Art de la table, habits de grande tenue et visite du parc sont notamment au programme. L'île de Lampedusa en Italie cristallise les tensions avec près de 10 000 migrants arrivés en bateau au cours des derniers jours. Les ministres de l'Union européenne se rendent sur place pour évaluer la situation et tenter de trouver des solutions. Le sport, du rugby avec la victoire de l'Irlande sur Tonga 59-16, le 15 du trèfle confirme ses ambitions dans le mondial. Et puis en Calédonie, l'haltérophile a trouvé son public hier soir à Boulari. Au Mont d'Or, de nombreux supporters sont venus encourager les athlètes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'UPM, l'Union progressiste en Mélanésie, réunissait hier son comité central à Poya pour informer ses adhérents des discussions qui se sont déroulées la semaine dernière à Paris. Au terme d'une journée de travail, son président Victor Tutugoro a annoncé la décision de l'UPM de continuer les discussions avec l'État pour respecter la parole donnée par le chef de la délégation, Roch Wamitan.
Je rappelle que la semaine dernière, sur Paris, nous avons donné une parole en disant que l'on respecte le calendrier qui a été proposé pour amender, donner nos propositions par rapport au texte qui a été proposé par le ministre de l'Intérieur. Et nous avons donné notre parole à l'Élysée auprès du président Macron. C'est notre chef de délégation qui l'a donné, le président Wamitan, pour dire que nous étions d'accord sur la méthode proposée et le calendrier donné. Et donc, à l'issue de ce comité central, nous avons décidé que, oui, il fallait concrétiser la parole qui a été donnée et nous sommes d'accord pour donner, écrire nos propositions auprès de l'État d'ici le 11 octobre. Donc, écrire des nouvelles propositions sur les parties dans le texte dans lequel nous ne sommes pas d'accord. Donc, oui, en résumé, nous sommes d'accord pour continuer les discussions avec l'État.
L'UPM prend donc clairement ses distances avec l'Union calédonienne qui a annoncé jeudi qu'elle suspendait toute rencontre avec l'État jusqu'à son congrès de novembre. Dans un autre registre, le comité central s'est aussi penché sur la situation de son secrétaire général Jean Crenier qui fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle à l'encontre d'une hôtesse d'Ercalin. Le parti a décidé de le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire.
Nous avons écouté ces explications et donc après débat en interne, nous avons pris une décision à deux niveaux. Le premier niveau, c'est donc au sein du parti. Nous avons décidé à titre conservatoire de le démettre du poste de secrétaire général en attendant que les choses elles se clarifient et demander au premier secrétaire adjoint, M. Jean Goué, d'assumer l'intérim pour les semaines à venir jusqu'à notre prochain congrès. Et le deuxième niveau, c'est de demander à l'UNI, parce que nous avons tous été élus sur des liste unie, donc de demander aux responsables de l'UNI de prendre les mesures nécessaires par rapport à cette difficulté qui nous est posée au regard des postes occupés par notre secrétaire général dans le bureau du Congrès ou dans les commissions en termes du Congrès. Donc, nous allons faire cette démarche auprès de l'UNI, du président du groupe UNI, dès lundi de la semaine prochaine.
Jean Crenier est donc suspendu de ses fonctions de secrétaire général qui seront exercées par Georges Goué jusqu'au prochain congrès du parti. Et dès lundi, l'UPM va demander à l'UNI de trancher concernant les postes occupés par Jean Crenier, qui est notamment troisième vice-président du congrès et président de la commission des finances et du budget. On a appris le décès la nuit dernière de Franck Waouzou, âgé de 75 ans. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Originaire de Lifou, c'était une figure du monde indépendantiste, ancien membre des Foulards Rouges. Franck Waouzou avait notamment participé à Nainville-les-Roches au nom des coutumiers. Et il avait pendant longtemps exercé une forte influence au sein de l'UC. De retour de Paris où elle a participé aux rencontres qui se sont déroulées du 4 au 9 septembre. Virginie Rufnacht était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. La chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie a notamment détaillé le projet d'accord mis sur la table par le gouvernement. Michael Genisky.
Virginie Rufnacht a d'abord été interrogée sur la décision de l'Union calédonienne de suspendre toutes les rencontres avec les représentants de l'État, y compris les réunions techniques, jusqu'à son congrès de novembre. Pour la chef du groupe Rassemblement, l'UC n'est pas à la hauteur des enjeux.
Et en tant que responsable politique, j'espère pouvoir mériter l'estime de nos populations, des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Et pour mériter cette estime, il faut, j'espère aussi, qu'ils considèrent que nous travaillons pour eux, à construire leur avenir, à aussi tenir les engagements du passé, puisque le précédent accord prévoyait qu'à l'issue de ces trois référendums, nous nous retrouvions autour de la table et que nous construisions l'avenir des Calédoniens, fort du choix qu'ils ont exprimé. Donc la politique de la chaise vide, je ne la comprends pas, et on peut affirmer ses oppositions, on peut ne pas être d'accord, mais juste gagner du temps et ne pas être là. Je pense que ce n'est pas à la hauteur des prédécesseurs qui étaient là avant nous dans les deux camps, et qui ont su travailler ensemble, même dans l'affrontement, dans la confrontation d'idées, de débats, mais qui ont su trouver une route commune pour l'ensemble des habitants de la Nouvelle-Calédonie.
Malgré cette attitude de l'UC, l'État va maintenir son calendrier, indique Virginie Rufnacht, qui participait vendredi matin à une bilatérale entre les partisans de la France et l'État. Pour elle, le bilan des rencontres parisiennes est globalement positif.
Je me retrouve comme chef de groupe là à l'Élysée avec en face de nous le président de la République, la première ministre, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministre délégué aux Outre-mer. Nous avons tout l'appareil d'État qui est là pour s'occuper de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes que 270 000 habitants. Je ne peux pas ne pas dire aux Calédoniens que nous sommes malgré tout impressionnés et le temps nous a été consacré. Donc il faut maintenant que nous prenions nos responsabilités et que nous avancions sur ces sujets. Je pense que cette séquence finalement était très importante. Les débats ont été plus apaisés et il est regrettable qu'ici retour en Nouvelle-Calédonie, probablement que certains sont pris en otage d'appareils ou je ne sais pas très bien en fait. Mais en tout cas, nous, ce qui nous anime, c'est l'intérêt général, c'est l'avenir et c'est faire nos propositions pour l'avenir.
Interrogée sur le projet d'accord proposé par l'État, Virginie Rufnacht relève qu'il se situe clairement dans les choix des Calédoniens de rester dans la France tout en respectant la singularité de la Nouvelle-Calédonie. C'est, pour elle, un texte pragmatique concernant notamment la modernisation des institutions calédoniennes. Il prévoit un dégel du corps électoral, mais il envisage 10 ans glissants. Et pour Virginie Rufnacht, 10 ans, ce n'est pas une victoire.
Effectivement, nous avions le rassemblement pas mis de date au départ. Avec les loyalistes, nous avons convenu une position commune de dire 3 ans. L'État avait posé la durée de 7 ans. Et puis, les indépendantistes disent on serait en capacité d'accepter 10 ans et l'État propose 10 ans. Donc, on a dit que c'était pas une victoire, c'était une période longue. Mais, je veux dire aux Calédoniens 2 choses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces 10 ans glissants, c'était quand même le dernier consensus de l'accord de Nouméa. Et la deuxième chose, c'est que l'important pour nous, c'est que cette citoyenneté soit ouverte et que tous les Calédoniens aient des perspectives, tous les citoyens français qui fondent leur vie en Nouvelle-Calédonie et des perspectives de devenir citoyen calédonien, de surcroît. En plus de la durée, tous ceux qui sont nés en Calédonie sont citoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, nous demandons à ce que soient rajoutés dans ce point les conjoints de citoyens calédoniens.
La vice-présidente du Rassemblement rappelle aussi que l'État prendra les dispositions pour dégeler le corps électoral pour les provinciales, qu'il y ait ou non un accord des partenaires calédoniens. Elle est aussi revenue sur les modalités proposées par ce projet d'accord sur la question du droit à l'autodétermination.
Quand vous parlez du oui ou non à l'indépendance et de l'autodétermination, chaque Calédonien se sent concerné. Ça veut dire que c'est quelque chose qui leur appartient. Et donc nous, plus de 50% de la population, et si le Congrès arrivait aux 2/3 à se mettre d'accord sur un nouveau statut, et ça c'est important aussi. Donc vous voyez, nous on considère que les verrous sont posés pour ne pas avoir de date, parce que nous ne voulons pas stresser les Calédoniens. Et moi je l'ai dit lors d'une trilatérale, notre territoire ne peut se résumer à un éternel exercice du droit à l'autodétermination. Parce que si c'est ça, on se tue, on se développe pas. On fait partir tout le monde et on stresse et on fait perdre la confiance.
Virginie Rufnacht a aussi été interrogée sur les prochaines élections sénatoriales pour lesquelles le Rassemblement soutient Pierre Frogier et Sonia Backès.
Les Calédoniens, par 3 fois, se sont battus pour affirmer leur volonté que la Calédonie reste française. Et donc le rôle, la responsabilité, et je fais un appel à eux aujourd'hui sur votre antenne, de chacun des grands électeurs partisans de la France, c'est de ne pas envoyer à Paris un sénateur indépendantiste et de respecter le choix exprimé de la population qui ne pourrait pas comprendre que alors qu'elle, elle vote pour que la Calédonie reste française, eh bien les grands électeurs partisans de la France ne font pas l'unité des partisans de la France et donc par ce jeu de division favorisent les indépendantistes indépendantistes et permettent aux candidats indépendantistes qui sont unitaires, vous l'avez bien vu, hein, UC, Palika, hein, et donc envoie à Paris un sénateur indépendantiste. Donc vraiment, je les appelle à se porter sur cette unité des partisans de la France que nous avons constituée, entre deux partis très différents. Celui de Sonia Backès, les loyalistes qui appartient à Renaissance, donc à la majorité présidentielle, et le Rassemblement qui est affilié aux Républicains au niveau national et qui est représenté par Pierre Frugier, sa suppléante Laura Vendégou, et le suppléant de Sonia, Gilles Brial. Cette unité, combien de fois les Calédoniens, partisans de la France, nous ont demandé de la faire? Nous avons réussi à la faire sur cette élection sénatoriale. Donc j'appelle vraiment tous les électeurs partisans de la France à ne pas avoir d'état d'âme sur cette élection et à faire le choix de l'unité des partisans de la France.
Et il y aura un bulletin unique pour Pierre Frugier et Sonia Backès le dimanche 24 septembre. Question d'actualité enfin, avec la plainte déposée à l'encontre de Jean Crenier, la réaction de Virginie Ruffnac.
Je considère que l'exemplarité des élus, elle est extrêmement importante. C'est un pilier majeur de la crédibilité de toute la classe politique. Et quand un fait, si jamais ces faits sont avérés, ils sont extrêmement graves. Il y a un traitement en justice, donc vous savez, bon, nous après, on respecte aussi la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'on ne veut pas forcément parler d'un sujet qui est en cours de traitement par la justice, puisqu'une plainte a été déposée et donc va être traitée correctement. Mais en tous les cas, la situation des femmes en Nouvelle-Calédonie, nous le sommes et nous voulons le dire, et je le dis pour toutes les porte-paroles féminines dans nos élus qui se battent au quotidien dans différentes commissions, nous ne sommes pas des objets, nous avons des droits et il faut que la société calédonienne change en la matière. On a une société très difficile à l'égard des femmes, extrêmement violente à l'égard des femmes. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, notre présidente de la commission droits des femmes et de la famille du Congrès, qui s'appelle Nadine Jalabert et qui est élue de notre groupe, a décidé de réunir une commission, sa commission qu'elle préside, sur la déontologie des élus sur ce sujet, parce que finalement il n'y a pas vraiment de texte déontologique qui traite de l'exemplarité des élus, de la façon dont ils doivent se comporter à l'extérieur, et je salue son initiative et j'espère que l'ensemble des élus de la commission du Congrès, moi-même je ne suis pas de la commission mais j'irai assister à cette commission, participeront à cette commission essentielle.
Une interview qui sera rediffusée ce soir juste après notre édition de 17h45, elle est également disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
De nouvelles perturbations possibles dans le trafic aérien domestique, comme attendu le collectif des usagers de l'IFU, menace de bloquer les rotations d'Air Calédonie à compter de mardi, Michael.
Peut-être un nouvel épisode du bras de fer qui oppose le gouvernement, la direction de la compagnie et les usagers d'Air Calédonie aux îles. Tout comme c'est le cas à l'île des Pins, le collectif de l'IFU dénonce également, on le rappelle, la nouvelle tarification mise en place sur les vols d'Air Cal. Selon le collectif, les négociations n'ont toujours pas abouti et la réponse aux dernières discussions n'a toujours pas été apportée par le gouvernement, d'où l'annonce d'une nouvelle mobilisation pour la semaine prochaine. L'un des porte-parole du collectif, Pierre Oukadjo, appelle la population de l'IFU à se mobiliser.
Pour la population de l'IFU, de venir en masse devant l'esplanade de la mairie de l'IFU pour justement voir si on a eu des retours par rapport à ce qu'on a demandé au gouvernement et à Cal. Alors si on n'a pas de retour, il y aura un blocage à partir de mars. Ça va nous dépendre de la réponse du gouvernement parce qu'on avait donné un délai quand ils sont venus à l'IFU, le directeur et le président du conseil d'administration. On a dit qu'on a bloqué un jour, on avait bloqué vendredi. Et si nous, on n'a pas de retour d'ici le 18, on avait bien dit au directeur et au président qu'on bloquerait à partir de 19.
Le collectif des usagers de l'IFU qui appelle donc la population concernée à se retrouver dès demain à Wé à partir de 8h pour décider ou non d'un nouveau blocage des vols sur l'IFU.
Dans le cadre du mois du patrimoine de la province sud, plusieurs bâtiments sont proposés à la découverte au grand public. Les journées portes ouvertes du Haut Commissariat se poursuivent aujourd'hui, Kélinda Boisco.
Au programme de la journée, les visiteurs découvrent par exemple les arts de la table avec les présentations de tables officielles et orfèvreries, une exposition des menus servie à l'occasion de visites ministérielles et présidentielles durant ces 20 dernières années, ou l'exposition de l'habit de grande tenue du gouverneur Gallet et d'objets prêtés par le musée de la Nouvelle-Calédonie, sans oublier la traditionnelle visite du parc commenté à la découverte de 27 espèces emblématiques. Hier déjà, les visiteurs étaient nombreux à déambuler dans la résidence du haut-commissaire ou dans son parc.
C'était extraordinaire de pouvoir visiter la résidence du haut-commissaire. Et j'ai vu beaucoup de choses de chez nous, de très beaux coquillages, de très belles représentations de cases, de popinets. Ça m'a étonnée, on dirait qu'on est dans un petit musée.
J'aime bien la table là-bas où il y a des sculptures. de quelqu'un qui pêche.
Je trouve que la visite est très intéressante, elle nous apprend pas mal de choses. Et puis surtout, on voit où tout se passe quand les dignitaires viennent ici, parce que finalement, nous, on ne sait pas trop. Des notes de service, par exemple, tous les objets récupérés dans les navires qui ont fait naufrage, voilà.
C'est une bonne chose, comme ça, on ne passe pas que devant. On est à l'intérieur et on découvre ce qu'il y a ici. J'ai découvert des objets trouvés à la mer, des assiettes, des fourchettes, et ça se voit que c'est des choses qui étaient dans des bateaux avant. Et puis après, des jolis coquillages que j'ai jamais vus, avec les anciennes bouteilles, c'est joli.
La journée porte ouverte du Haut-Commissariat, c'est jusqu'à 17h ce soir. Il est obligatoire de vous munir d'une pièce d'identité pour accéder au site.
Et au Mont d'Or, c'est une exposition de véhicules qui est proposée à la Maison de l'Environnement à Boulard-Uquinde.
L'occasion de découvrir des véhicules arrivés à différentes époques en Calédonie avec l'Association pour la sauvegarde des engins mobiles de la Nouvelle-Calédonie et du Jeep Army Club. Les précisions de Loïc Luciani, le président de l'Association pour la sauvegarde des engins mobiles de la Nouvelle-Calédonie.
On expose des charrues qui date du début du 19e siècle, jusqu'à des moteurs monocylindres qui datent des années 1920, pour lesquels on fait des démonstrations de remise en route. On a un vieux tracteur des Américains aussi qui est exposé, qui n'est pas encore en état de marche. On a un tracteur Renault de 1955. Et on a le Jeep Army Club, qui exceptionnellement viendra se joindre à nous pour faire des balades en Jeep et exposer quelques véhicules américains de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, c'est de se faire connaître auprès des Calédoniens et surtout d'essayer de permettre aux Calédoniens d'aujourd'hui de s'approprier leur passé et surtout le machinisme que les vieux d'autrefois utilisaient pour avoir construit la Calédonie d'aujourd'hui.
Une exposition qui se poursuit jusqu'à 16h à la Maison de l'Environnement à Boulari, c'est au Mont d'Or. Le programme du mois du patrimoine de la province sud est disponible sur la page Facebook de la province.
Le grand vide-grenier de la ville de Nouméa referme ses portes en ce moment, place des Cocotiers. Depuis 7h, 250 exposants ont proposé des articles très variés à des prix abordables. Les Calédoniens ont été nombreux à venir profiter de ces bonnes affaires, malgré une météo maussade.
Ça te dérange pas, de toute façon on va pas fendre hein, pour se promener avec ma mère. Du linge la plupart du temps, après on cherchait des trucs spéciaux genre ouvre-boîte et tout, mais on n'a pas trop, la plupart c'est que du linge.
Pour l'instant on cherchait des chaussures pour sortir, pour marcher, faire du sport, pour maigrir.
Pas mal de choses qu'on peut trouver à vraiment des prix qui fait pour la population, parce qu'en ce moment avec l'économie, non pas mal, mais c'est le temps. Le temps n'est pas trop au beau fixe, parce que le vide-grenier il devait être rempli, mais apparemment il y a des espaces. Les gens ne sont pas venus par rapport à la pluie.
Et vous avez trouvé quoi ?
Pas mal de vêtements. Ça habille tout le monde et ça va faire plaisir pour la famille. Et même des petits chapeaux pour Halloween, parce que bientôt au mois d'octobre, et puis c'est bon, au lieu d'aller acheter au magasin, on trouve pour un prix agréable.
Toujours aussi sympathique. Il y a énormément de stands avec plein de choses différentes à trouver pour tout le monde. Des vêtements, des jeux, des livres. Moi, j'ai acheté plein de livres. Je suis ravie. Des petits romans pour des prix attractifs. Donc, comme d'habitude, sympathique ce vide-grenier.
C'est très bien, c'est surtout pour notre petite fille. Ouais. Des jouets, des affaires, des vêtements. Donc, pour l'instant, on est content. Très bonne affaire.
Je suis habituée pour les marmites, c'est juste pour acheter les marmites. C'est juste la marmite rôtie. C'est pour moi, dans le Nord, rien qu'être.
Des propos recueillis par Kélinda Boisco. 12h18, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer l'actualité internationale et nationale et cette crise migratoire en Europe avec près de 10 000 migrants arrivés sur l'île italienne de Lampedusa. On se retrouve après une page de publicité.
Producteur au consommateur, King Banana vous propose ses fruits et légumes, salades, concombres, bananes et bananiers. Appelez Thierry au 94 63 44 ou au 95 16 53.
Vous avez une petite fringale ? Vous avez une grosse fringale ? Alors venez vite au Snack Ciné Café. Aussitôt commandé, aussitôt servi. Le Snack Ciné Café vous propose sa nouvelle carte. Sur place ou à emporter, avec le Snack Ciné Café, c'est copieux, c'est pratique et c'est pas cher. Ouvert du vendredi au dimanche, le Snack Ciné Café pour passer un moment vraiment sympa.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite d'Info Week-end, Isabelle Pelletier.
Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui doit se rendre dans les prochains jours en Italie pour y rencontrer son homologue Matteo Piantedosi dans le cadre de ce que certains qualifient déjà de plus grave crise migratoire jamais rencontrée par l'Europe, avec l'arrivée de près d'une dizaine de milliers de migrants à Lampedusa en Italie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit se rendre sur place ce dimanche en compagnie de la première ministre italienne, Giorgia Meloni. À Lampedusa, l'arrivée massive de ces migrants attise la colère des habitants de l'île. Antonino Gallofaro est le correspondant en Italie pour Europe 1.
Une centaine de personnes en effet a bloqué une artère de l'île. Elles manifestent et ne veulent pas que les migrants s'installent dans des tentes que l'armée pourrait leur fournir.
Aujourd'hui, Lampedusa dit stop. Nous ne voulons pas de centre d'accueil, pas de tente. Nous ne voulons plus rien. Et j'en ai marre de le répéter. Ce message doit arriver à l'Europe et au gouvernement. Les habitants sont fatigués.
Cette voix énervée, c'est celle d'Attilio Lucci, l'adjoint du maire, membre de la Ligue. Ici, la manifestation devient politique en vue des élections européennes de l'an prochain. L'homme s'en prend à celle qui est normalement une alliée, la première ministre Giorgia Meloni. Elle se rend demain sur l'île avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Pendant ce temps, il reste toujours près de 3000 personnes qui attendent d'être évacuées de Lampedusa. Et ce matin encore, 121 personnes ont débarqué sur l'île.
Antonino Gallofaro, le correspondant en Italie pour Europe 1, Lampedusa, première étape pour ces migrants qui visent souvent l'Angleterre ou la France, où ils décrivent des conditions de vie et une protection sociale intéressante. Il y a déjà des points chauds aux frontières de l'Hexagone, comme dans les Hautes-Alpes, notamment à Briançon, où la police intercepte plus de 60 migrants par jour, un chiffre croissant. Les services de police aux frontières sont débordés, même situation encore en Savoie. Une crise migratoire qui a évidemment occupé une place importante au cœur de la rentrée politique du Rassemblement national dans le Gard, avec des élections européennes là aussi en ligne de mire. Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient dans les arènes de Beaucaire pour les universités d'été du parti. Le président de la formation a brandi la situation migratoire à Lampedusa comme un chiffon rouge.
Nous ne sommes qu'au début d'une crise migratoire déjà massive qui va redoubler d'intensité. Alors que l'Europe subit un hiver de la natalité et en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, l'Afrique, une explosion démographique sans précédent, la ruée vers l'Europe va s'accélérer. Avec des conséquences humanitaires dramatiques pour ceux qui prennent des risques en mer, avec des conséquences sociales, sécuritaires et culturelles pour les peuples d'Europe. Les Français doivent regarder ces images, car elles seront notre futur si nous ne reprenons pas, dès maintenant, le contrôle de nos frontières. Avec Monsieur Macron, l'Europe est devenue une hôtesse d'accueil pour migrants. Avec nous, elle raccompagnera les bateaux dans les pays de départ.
Le président du Rassemblement national qui prépare son parti à la campagne des européennes et envisage une franche victoire le 9 juin prochain. Un audit mené dans l'ensemble des rectorats sur toutes les situations de harcèlement signalées l'année passée, c'est ce qu'a annoncé samedi le ministre de l'Éducation Gabriel Attal après un courrier adressé par le rectorat aux parents d'un collégien qui s'était donné la mort début septembre dans les Yvelines alors qu'ils avaient prévenu l'académie que leur fils était harcelé. Le rectorat a répondu en les menaçant de porter plainte. Une honte, a réagi Gabriel Attal. Et puis les distributeurs autorisés à vendre l'essence à perte pendant quelques mois, c'est une annonce d'Elisabeth Borne pour permettre à ses distributeurs de baisser davantage les prix. La première ministre s'est exprimée dans un entretien mis en ligne sur le site du Parisien. Elisabeth Borne qui a également annoncé à compter de novembre la fin de la shrinkflation, ce procédé qui consiste pour les industriels à réduire la quantité vendue dans un emballage sans pour autant en réduire le prix. 12h23, une seconde pause dans ce journal avant la suite de l'actualité. On va passer au sport avec tout d'abord, bien sûr, nos pages spéciales rugby. On se retrouve après la publicité.
Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là! Encore plus belles, encore plus goûteuses, avec un parfum unique et une qualité exceptionnelle. Ce week-end, on se donne tous rendez-vous aux fraisiers de Païta. Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là!
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Jean-Marc raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Décathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Décathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Et à la une de l'actualité sportive, le rugby. Nous ouvrons donc notre page spéciale avec Michael Juneski, juste après un clin d'œil à notre partenaire.
Les pages spéciales Coupe du Monde de Rugby 2023 avec Dynatec, votre partenaire installation photovoltaïque de lampadaires solaires autonomes et Elumelec. Elumelec, c'est tout le matériel électrique et l'éclairage pour professionnels et particuliers au 7 rue FLA Ducos.
La suite du mondial de rugby et les derniers résultats du jour, c'est avec vous, Mickaël, et avec notre consultant Pierre Forest.
Exactement, la dernière affiche hein, ce dimanche, c'était la victoire de l'Irlande sur les Tonga sur le score de 59-16, 8 essais. Jonathan Sexton qui bat le record de Ronan O'Gara, désormais 1090 points sous le maillot irlandais. En tout cas, voilà l'Irlande, première nation du classement mondial qui a confirmé son statut avec ce deuxième succès de rang. Pierre Forest, vice-président de la Ligue de rugby, notre consultant pour cette compétition. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette performance des Irlandais face aux Tongiens ?
Bah d'abord que c'était l'entrée en lice de nos amis tongiens, nos amis du Pacifique. Bon, malheureusement, on le savait depuis le départ avec cette poule-là, on va dire, c'est la poule peut-être la plus difficile, avec l'Irlande première au classement mondial, l'Afrique du Sud championne du monde sortante en titre, et troisième, il me semble, au classement mondial. Donc c'est évidemment très difficile pour les équipes qui restent. Je crois que l'intérêt de cette poule là pour Tonga, c'est peut-être de viser la troisième place. Bon, c'est le premier match, c'est normal. Hein, il y a l'Irlande, après il y aura l'Afrique du Sud, mais sur les autres équipes, il y aura peut-être possibilité de jouer la troisième place. Je le répète, qui est qualificative directement pour la prochaine Coupe du Monde.
Absolument, tous les points qui vont compter. Ce 15 irlandais, deuxième succès de rang, et puis Jonathan Sexton à 38 ans qui mène cette barque irlandaise. Véritablement, ils veulent confirmer leurs ambitions. Pourquoi pas rêver de ce sacre mondial?
Bah oui, et puis surtout, je pense qu'ils visent déjà le prochain match. Hein. Le prochain match, c'est la semaine prochaine. C'est le match qui va être déterminant. Pourquoi déterminant? Parce qu'il va déterminer la première place et la deuxième place de cette poule-là avec l'Afrique du Sud. Donc ce match Irlande-Afrique du Sud, tout le monde l'attend. C'est la semaine prochaine. Je ne me rappelle pas c'est à quelle heure ni le jour, mais c'est en tous les cas, c'est au Stade Vélodrome de Marseille.
En plus, pour augmenter un petit peu. Il y avait d'autres rencontres, évidemment, hein, à suivre hein, tout au long de la nuit. Un coup d'œil à ces autres résultats. Tout d'abord, dans la poule D, les Samoa qui ont surclassé le Chili sur le score de 43-10. Hein, victoire bonifiée pour lancer ce mondial de la sélection samoane. Un match pourtant assez brouillon. Le Chili qui a tenu le rythme en moins pendant 40 minutes avant de lever le pied. Pierre Forest, sur cette rencontre face au Chili, vous en avez pensé quoi?
Ben écoutez, moi j'ai plaisir à le regarder, même si c'était un peu tard dans la nuit, puisque c'est toujours nos voisins du Pacifique, les Samoa, qu'on retrouve également aux Jeux du Pacifique, que ce soit à 15, mais maintenant à 7. Victoire des Samoa classés, je crois que le classement mondial a été respecté, les Samoa 11e, le Chili 22e. Mais les Chiliens, comme vous l'avez dit, ont été héroïques, ont été très valeureux sur cette première mi-temps. Hein. Il y avait à peine, je ne me rappelle plus du score à la mi-temps, mais c'était un score assez serré. Et c'est un match inédit, je crois que c'est la première fois que les deux équipes se sont rencontrées. Hein. Évidemment, Amérique du Sud et Pacifique, on ne se rencontre pas souvent. Match inédit, mais des deux côtés, mais il y avait une forte connotation du top 14. Certains éléments, notamment des Samoa, je vais en citer quelques-uns pour ceux qui écoutent et qui connaissent un petit peu les équipes du top 14. C'est donc Paya Aoua du RC de Toulon. Seuteni, qui était à l'UBB et qui est maintenant au centre à La Rochelle et qui est champion d'Europe avec le club, et l'ouvreur du Loup, du Lyon, de l'équipe de Lyon où joue Romain Taufinois, l'ouvreur samoan Sopo Aga, donc qui est rentré en deuxième mi-temps. Et puis du côté du Chili, j'ai simplement noté qu'il y avait l'entraîneur, en l'occurrence Pablo Lemoine, qui a été pilier au Stade Français il y a deux ou trois saisons de ça. Donc il y avait une forte connotation, mais très bien. Là aussi, l'intérêt pour les Samoa dans cette poule-là, l'intérêt pour les Samoa, évidemment, c'est de sortir avec une poule qui a déjà l'Angleterre, l'Argentine, donc victoire des Anglais au premier match contre l'Argentine, donc il faut ne pas espérer, sauf un miracle, battre l'Argentine qui va vouloir se racheter. Mais je pense que c'est faisable pour eux de sortir troisième de cette poule, qualificative encore une fois pour la prochaine Coupe du Monde. il y aura quand même aussi le Japon à battre également dans cette poule.
Absolument. Alors, pour le compte de la poule C, à présent, cette fois, il fallait vraiment se coucher tard ou se lever très tôt. Le Pays de Galles face au Portugal. Victoire du Pays de Galles, évidemment, sur le score de 28 à 8, dans la douleur tout de même, sur cette rencontre. En tout cas, un mot notamment sur cette équipe du Portugal, Pierre Forest.
Alors, c'est, comme on dit, il n'y avait pas photo avant ce match-là. Il n'y avait pas photo. Le Pays de Galles, qui dispute régulièrement le tournoi de 6 nations et qui est une équipe de haut de tableau au niveau européen contre le Portugal qui n'a eu sa qualification que suite à la disqualification de l'équipe d'Espagne, hein, qui a fait jouer pendant les phases éliminatoires quelqu'un qui n'était pas éligible. Et donc le Portugal s'est retrouvé dans les 20 heureux élus pour disputer cette Coupe du Monde. Et puis c'est très surprenant parce que 28 à 8, hein, donc on a l'habitude de... C'est souvent rédhibitoire de dire, voilà, il n'y a pas photo entre les deux équipes, mais force est de constater que le Portugal a montré beaucoup d'envie et beaucoup de velléité offensive. Notamment, je n'ai pas vu le match, mais j'ai regardé un petit peu les quelques extraits. Et alors que les Gallois, ils ont manqué tout ce qu'ils pouvaient tenter. Donc, ça n'a pas été une grande équipe galloise. Et la particularité de cette équipe de Portugal, alors est-ce que c'est un lien de cause à effet, c'est qu'il est entraîné par un certain Patrice Lagicquet, qui a été longtemps trois carrés de l'avion, du BO d'abord, Biarritz Olympique, puis l'avion Bayonne, et puis surtout qui a été international en équipe de France. Et il me semble, si mes souvenirs sont exacts, il faisait partie de l'équipe de France finaliste en 1987 contre la Nouvelle-Zélande. Voilà.
Très bien. Alors maintenant, on va se plonger vers les matchs à venir. L'heure tourne, la Coupe du Monde aussi. Les prochaines rencontres au programme. Et vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, ce soir dans la poule B, les Springboks sud-africains, champions du monde en titre, hein, qui affronteront dès minuit là à Roumanie. Il y aura aussi au menu Australie-Fidji. Et puis la rencontre de ce lundi matin, l'Angleterre face au Japon. Un petit mot global sur ces beaux matchs à venir, les Springboks et puis l'Angleterre au petit-déj demain matin.
Oui, je pense que parmi les trois que vous avez cités, je pense que c'est le match qui va nous intéresser principalement dans cette poule-là. C'est la poule où il y a l'équipe de Fidji. L'équipe de Fidji qui va jouer contre l'Australie. L'Australie, je crois, rentre en scène. Hein, c'est le premier match. L'Australie qui n'est pas au mieux quand on regarde les cinq derniers matchs soldés par cinq défaites, déjà dans le tri-series, et le dernier match amical contre la France au Stade de France, c'est le cas de le dire. Donc l'Australie a besoin de cette victoire à tout prix pour se régénérer et puis rentrer de plein pied dans cette compétition. J'ai cru comprendre que le capitaine Skelton était titularisé, mais qui a des problèmes musculaires également, comme tout joueur dans les autres équipes. Et puis peut-être que Fidji, c'est le match à ne pas perdre. S'ils veulent se qualifier pour les quarts, ils ont déjà perdu le premier match contre les Gallois, on l'avait souligné, de peu. On avait même été à dire que l'arbitre ne les avait pas favorisés sur ce match-là. Mais donc, ils avaient récupéré le bonus défensif, me semble-t-il. Et là, s'ils veulent se qualifier pour les quarts, les Fidji doivent à tout prix battre l'Australie. Sinon, c'est la troisième place qu'il faudra miser.
Le programme complet, je le redonne. Afrique du Sud, Roumanie à partir de minuit ce soir. Australie-Fidji, ce sera à suivre à partir de 2h45. Et puis Angleterre-Japon ce lundi à partir de 6h. Très rapidement, Pierre Forest, un dernier mot. Hein. Déjà, cette première semaine de Coupe du Monde en métropole, toute l'organisation évidemment qui est suivie de près, un événement planétaire, pas moins de 20 nations représentées. Pour le moment, selon vous, c'est une belle image du rugby qui est donnée et puis également du sport français dans ce mondial.
C'est un succès populaire, hein, de ce qu'on remarque à la télévision. Tous les stades sont pleins, c'est très difficile d'avoir des places, même pour des petites affiches, comme on dit, mais je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait 750 000 visiteurs qui sont arrivés pour cette première phase de match de poule, hein, étrangers, donc je pense que c'est bon pour l'économie métropolitaine, en métropole d'ailleurs, et puis voilà, beaucoup de Calédoniens également sont partis, hein. On est plein, on les voit sur les réseaux sociaux, ils sont un peu dans... Il y a toujours un Calédonien dans un des stades où il y a un match, donc c'est bien. Et puis même localement, je crois que beaucoup de gens veillent tard la nuit ou se lèvent en pleine nuit pour regarder des belles affiches. Donc oui, c'est un succès populaire.
Merci beaucoup Pierre Forest, merci d'avoir été dans nos studios encore ce midi. Je redonne bien le rendez-vous pour les mordus de l'Ovalie demain soir comme tous les lundis soirs à 17h, le grand débrief de cette Coupe du Monde, 45 minutes pour revenir sur les faits marquants du week-end rugby en compagnie de nos grandes voix du sport. Ce sera comme ça jusqu'à la finale du 29 octobre, le mondial de rugby, c'est à suivre sur RRB.
Les pages spéciales Coupe du Monde de rugby 2023 avec Eulumelec. Eulumelec, c'est tout le matériel électrique et l'éclairage pour professionnels et particuliers au 7 rue FLA du COS. Plus d'infos sur Facebook ou au 46 54 54. Eulumelec, mets en lumière la Coupe du Monde de rugby. Les pages spéciales Coupe du Monde de rugby 2023 avec Dynatec. Chez Dynatec, choisissez votre solution en énergie renouvelable. Profitez de la dernière génération de panneaux photovoltaïques. Études et devis gratuits au 27 50 70.
Et après le rugby, on passe en revue le reste de l'actualité sportive avec le football et la 5e journée du championnat de France.
Et le RC Lens qui a été battu sur son terrain ce matin par l'équipe de Metz, 1-0. Performance pas rassurante pour les Lensois quelques jours de leur grand retour en Ligue des Champions. La réaction de l'attaquant lensois Florian Sotoka.
Ouais, c'est assez inexplicable. Ils ont passé une fois le milieu de terrain. À la perte de ce match, ouais, ça fait mal. Je pense qu'on a fait de très bonnes choses. Il nous a manqué juste l'efficacité devant les buts. Dans le football, vous savez, quand vous avez des moments difficiles, ben, parfois il existe des matchs comme ça. Et aujourd'hui, c'était un soir où rien ne nous a réussi.
L'autre résultat du jour, c'est ce match nul entre Rennes et Lille sur le score de 2-2.
Comme tous les dimanches midi, on fait un tour d'horizon du ballon rond sur la scène européenne.
Ouais, très rapidement, l'Italie et l'Inter Milan qui a corrigé le Milan AC dans un derby où le français Marcus Thuram a marqué un but. 5-1, score final pour l'Inter. Victoire également de la Juve sur la Lazio de Rome, 3-1. En Espagne, le Barça a étrié le Betis Séville, 5-0. La Bundesliga allemande avec la victoire de Dortmund sur Fribourg, 4-2. Et de Leipzig sur Augsbourg, 3-0. Hier, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen avaient fait un nul 2-2. Les deux clubs qui sont justement co-leaders. L'Angleterre et le leader Manchester City qui a battu West Ham sur le score de 3-1 avec un nouveau but de Haaland. L'autre club de Manchester, Manchester United, a été lui battu par Brighton 3-1. Tottenham l'a emporté sur Sheffield 2-1. Ce soir, Chelsea ira à Bournemouth et Arsenal se déplacera à Everton.
L'équipe de France de volley rentre sans médaille du championnat d'Europe.
Et non, les Bleus ont terminé à la 4e place. Les champions olympiques en titre ont perdu lors de la petite finale de ce championnat d'Europe face à la Slovénie sur le score de 3-7-2. Ce sont les Polonais qui ont décroché le titre en s'imposant face aux Italiens.
Et on passe maintenant au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec les qualifications pour le Grand Prix de Singapour.
Et les Ferrari qui ont trouvé le bon rythme. Carlos Sainz a signé la pole position juste devant la Mercedes de George Russell. Et l'autre monoplace de la Scuderia pilotée par Charles Leclerc s'est classé 3e sur la grille de départ. Charles Leclerc.
Je pense que la philosophie reste la même. Dans le premier stint, si on se bat avec d'autres voitures, on ne va pas se battre. Par contre, dans le dernier, si on a beaucoup d'avance sur tous les autres, ce que je nous souhaite, alors là, peut-être qu'on aura la possibilité de se battre. Mais bon, à la fin, on fera ce que le boss nous dit.
Et en revanche, chez Red Bull, Max Verstappen a été éliminé dès la Q2. Il ne s'élancera que de la 11e place. Pas mieux pour Sergio Pérez qui partira à 13e. Côté français, Esteban Ocon s'élancera de la 8e position. Pierre Gasly de la 12e place. Grand Prix à suivre à partir de 23h ce soir.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2023. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
En cyclisme, on disputait l'avant-dernière étape du Tour d'Espagne.
Et c'est le néerlandais Wouter Poels qui a décroché la victoire d'étape après une longue échappée devant Remco Evenepoel. Au classement général, l'américain Sepkus est en tête devant ses coéquipiers, le danois Jonas Vingegaard et le slovène Primoz Roglic. Le meilleur français Romain Bardet pointe à la 20e place du général. L'arrivée à Madrid se fera demain matin.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Et à la une de l'actualité sportive en Calédonie, on disputait hier une nouvelle manche des championnats territoriaux d'haltérophilie.
Et un motif de satisfaction pour les organisateurs, cette forte participation et notamment un plateau jeune qui a précédé les compétitions seniors au Mont d'Or. Du public nombreux sur place pour soutenir les athlètes. Kevin Lécuitine, président de la Ligue, réagit à cette belle ambiance dans la salle.
Yeah.
C'était une compétition, donc la dernière compétition qui pouvait permettre une qualification pour les Jeux du Pacifique. On va dire que ceux qui avaient vraiment un engagement à réaliser sur cette performance-là, ça a déjà été validé. Côté public, là, on est vraiment surpris et agréablement surpris. Donc le public a répondu présent. Donc à noter que donc, sur cette finale territoriale, plus de quasiment 30 lifters engagés, donc un record depuis qu'on a relancé l'haltérophilie en Nouvelle-Calédonie. Donc très encourageant pour nous. Remercier les sponsors, ceux qui nous accompagnent sur ces événements. LC Shop, Happy Flower, les groupes Q&A, Daovi et la ville du Mont-d'Or. C'est le travail, beaucoup de travail fourni depuis qu'on a relancé l'haltérophilie depuis quelques années maintenant. Avec les échéances aussi qui arrivent là, les Jeux du Pacifique, ça a redynamisé un peu ce sport. On en est qu'au début, j'en suis convaincu.
Kevin Lécutine, président de la Ligue d'haltérophilie et du club du Mont-d'Or.
Et du tennis de table avec le championnat de Calédonie.
Elliot Bézard a décroché le titre hier soir. Le licencié de Magenta s'est imposé face au vainqueur de 2022, Adrien Perrault du club du Mont-d'Or, au terme d'un match serré, Elliot Bézard.
Très content, une finale, ça faisait longtemps que j'avais pas joué contre Adrien en finale. Et du coup, ben là, bien content, de beau niveau de jeu. En demi, c'était très serré aussi et je suis vraiment content d'être parvenu à gagner cette fois-ci, ça faisait longtemps. Et monter sur le podium, ça fait plaisir. Ouais.
Et chez les féminines, c'est la jeune Laurila qui a terminé en tête du classement.
Hors du territoire du football, en Polynésie française, la sélection féminine des moins de 16 ans jouera cet après-midi son deuxième match des Océaniens, Michael.
Après le nul contre les Tahitiennes 0-0, les Calédoniennes affronteront l'équipe de Tonga avant le dernier match mercredi contre les îles Salomon. Et concernant cette fois les garçons, les moins de 17 ans connaissent leurs adversaires lors du mondial en Indonésie. Les Calédoniens seront dans le groupe C, le groupe du Brésil, de l'Iran et de l'Angleterre. Une compétition organisée du 10 novembre au 2 décembre prochain.
Merci Mickaël, il est 12h41, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.